archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie. Le rappel de lait pour nourrissons par quelques grands groupes a remis récemment dans l'actualité la nécessité d'exercer un contrôle sérieux sur la production de matières alimentaires. D'autant plus que les produits peuvent, depuis la mondialisation, venir de très loin et ne pas être soumis aux mêmes normes partout. Bref, la sécurité alimentaire est une préoccupation depuis des dizaines d'années, comme va nous le démontrer l'archive que nous écoutons cette semaine. Elle date de mars 1999, produite, vous le savez désormais, par Radio France Internationale dans le cadre d'un magazine hebdomadaire baptisé « Fréquence Terre ». Elle dresse un bilan des efforts fournis en l'an 2000 par les organisations internationales pour réduire les risques sanitaires liés à l'alimentation. Je vous propose de voir quelle était la situation à l'époque et nous ferons dans 20 minutes un point des tendances qui se dégagent aujourd'hui. A tout à l'heure.
Fréquence Terre.
Véronique Guémard, aujourd'hui sur Fréquence Terre, la sécurité et la qualité des aliments dans un environnement en danger.
Il est bien évident que le consommateur veut être absolument sûr de ce qu'il mange, c'est-à-dire qu'il ne veut pas être malade. Et je crois que le consommateur accepte de moins en moins d'être victime de quelque chose dont il n'est pas maître. Et je crois que c'est là la prise de conscience récente des dernières années. Le fait que l'industrie, je crois aussi, se soit développée beaucoup au cours de ces dernières années, tous les types de production dits industriels ont fait que le consommateur pense qu'il n'a pas été averti de tous ces changements et que tout cela, en fait, a des incidences sur la qualité finale du produit qui va se retrouver dans son assiette.
Face à la diversité des échanges mondiaux, les consommateurs cherchent de plus en plus à varier leur alimentation. Mais cette diversification a aussi des effets pervers. Aujourd'hui, les maladies liées à l'alimentation sont nombreuses et constituent un véritable problème de santé publique à l'échelle de la planète. Cécile Laëlec est responsable du département Hygiène, Qualité et Sécurité des Aliments au CNEVA, le Centre français d'études vétérinaires et alimentaires. Elle analyse la multiplication des risques depuis le champ où le produit est récolté jusqu'à l'assiette du consommateur.
C'est vraiment toute une notion de filière de tous les stades de la production jusqu'à la consommation. Parce que si, en fait, on a un produit qui est un peu contaminé, qu'on le cuit correctement, ce qui existe d'ailleurs dans beaucoup de pays dans lesquels les populations savent instinctivement qu'il faut cuire ou bien qu'on va saler. Il y a beaucoup de techniques qui ont été utilisées depuis très très longtemps. On aura en fait peut-être relativement peu de problèmes de toxi-infections alimentaires. Je reviens du Vietnam. Il n'existe pas vraiment de filière de production, au moins dans le domaine de la volaille, puisque l'abattage se fait encore sur les marchés. Mais par contre, les produits sont commercialisés immédiatement et cuits, et très cuits immédiatement. Et il ne semble pas qu'il y ait de problème majeur en matière de toxi-infections alimentaires. Par contre, si un jour il y a une industrialisation de la production, ce qui va certainement se produire dans les années à venir, et une industrialisation aussi de l'abattage, de la transformation d'une part, avec des eaux qui sont souvent ne sont pas potables, et donc si on augmente aussi les durées de conservation, si aussi les populations s'occidentalisent, en cuisant beaucoup moins leurs denrées, tous les aliments qu'ils ont à disposition, ils auront aussi des risques qu'ils ne connaissent pas à l'heure actuelle. Alors qu'en France, ou dans différents pays européens, ou des pays dits développés, on a tendance à cuire de moins en moins pour préserver le goût du produit, les qualités organoleptiques des produits. Et à ce moment-là, on a en fait, en conséquence aussi, beaucoup plus de risques d'ordre alimentaire. C'est un tout. La qualité finale du produit qui est dans l'assiette du consommateur va dépendre vraiment des différents stades de la production jusqu'à la consommation.
Prenons un exemple concret. La qualité d'une céréale, le mil, au premier niveau de sa production, juste après la récolte. C'est ce qu'on appelle le battage. Un exemple que décrit Mohamed Aïdara de l'association Afrique Verte au Mali.
Je crois qu'il y a d'abord un problème qu'on peut appeler traditionnel, parce que les gens dans les grandes zones du Mali, telles que Ségou par exemple, ou dans une moindre mesure certaines zones de la région de Sikasso, les gens font les batailles du mil à même le sol. C'est-à-dire le mil est récolté, on cherche des gros camions ou des tracteurs qui viennent, qui battent le mil. Donc il n'y a pas le système de soufflage, il n'y a pas de machine perfectionnée qui s'occupe de la récolte. Donc, puisque le battage est fait à même le sol, même si les femmes font le vannage après, ben, il est évident qu'on va retrouver beaucoup de poussière, beaucoup d'impuretés qui sont de nature à ne pas respecter les normes de qualité. Par contre, il y a certaines zones comme les Sénos au pays Togon, qu'il est bien de signaler, là où les céréales sont de très bonne qualité. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, les Dogons font le battage du mil dans des mortiers. Donc ça ne se fait pas à même le sol, qui fait que les céréales se trouvent être de qualité dans ces zones. D'ailleurs, on profite du cas de ces deux zones pour favoriser ce qu'on appelle des échanges interpaysans, puisque c'est assez pédagogique que des paysans d'une zone puissent prendre l'expérience et le vécu des paysans d'autres zones.
Selon Elzedine Boutrif de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture à Rome, la situation que décrit Mohamed Aïdara, c'est-à-dire le taux d'impureté trop élevé dans le mil, est un des problèmes les plus fréquents qu'on retrouve sur les marchés internationaux.
D'après les statistiques actuelles, c'est une des sources principales de rejet de certains produits, surtout entre pays en voie de développement et pays développés. Nous essayons, bien sûr, à travers nos projets, le projet FAO d'assistance technique, d'aider ces pays-là à éliminer ce genre d'handicap et essayer de promouvoir leur capacité d'exportation de produits qui sont sains, conformes aux normes internationales, de manière à ne pas avoir de problème à l'arrivée de ces produits-là au port donc destination.
Car pour rentrer sur un marché, il faut que les produits répondent à des normes internationales. La référence mondiale est le Codex Alimentarius, en latin, qui signifie « code alimentaire ». Les explications de Jean-Michel Poisson, secrétaire général adjoint du Comité interministériel Agriculture et Alimentation pour la France.
Le Codex Alimentarius a été créé en 1962 sous l'égide de la FAO et de l'OMS.
Donc la FAO, c'est le Programme des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Tout à fait. Son objectif principal est l'harmonisation internationale dans le domaine alimentaire, qu'il s'agisse de la sécurité alimentaire, des normes concernant la sécurité alimentaire, qu'il s'agisse également de la protection des consommateurs et de la loyauté. Aujourd'hui, le Codex Alimentarius est un recueil de ces normes. La commission du Codex Alimentarius, qui en est l'organe exécutif, compte 163 membres. Récemment, le Vanuatu et les îles Solomon ont rejoint le Codex Alimentarius et il fonctionne essentiellement sur la base du consensus. Le travail est organisé et réparti au niveau d'une trentaine de comités. Il existe des comités horizontaux traitant de sujets comme l'étiquetage, les contaminants, les résidus de pesticides, les résidus de médicaments vétérinaires, également l'hygiène, et des comités plus verticaux par produit, comités sur les produits laitiers, sur les huiles et les oléagineux, les fruits et légumes, etc. Depuis 1962, de nombreuses normes à la fois sur la sécurité des aliments et la protection des consommateurs et la loyauté des transactions commerciales ont été prises sur la base du consensus. Ces travaux ont pris encore plus d'importance à partir de 1995, lorsqu'a été créée, à la suite des accords de Marrakech, l'Organisation mondiale du commerce et son système de règlement des différends. Deux accords très importants touchent le Codex. Il s'agit de l'accord sanitaire et phytosanitaire qui mentionne explicitement le Codex Alimentarius comme référence mondiale en matière de normes sanitaires alimentaires, et l'accord sur les obstacles techniques au commerce qui ne mentionne pas explicitement le Codex mais qui fait référence à l'ensemble des organes internationaux de normalisation. Dès lors, les normes édictées par le Codex, qui étaient essentiellement facultatives, deviennent en quelque sorte obligatoires de fait, non pas du fait du Codex, mais du fait de l'utilisation qui en est faite en tant que référence internationale par l'Organisation mondiale du commerce.
Un des problèmes qui se pose de plus en plus, c'est l'arrivée sur les marchés internationaux de produits chargés en substances chimiques. Même en France, les services de la direction des fraudes ont relevé en 1997 des teneurs en pesticides dans les salades dépassant largement les maximales autorisées. Cécile Lahellec.
De plus en plus, on est alerté par des problèmes de contamination par le plomb, par le cadmium ou encore des contaminants de l'environnement comme les pesticides, etc. Il y a bien évidemment un certain nombre de choses que l'on peut cerner au niveau de la production. Le problème, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de nouvelles molécules. Et la communauté européenne impose effectivement la recherche d'un très très grand nombre de molécules pour lesquelles il va falloir mettre des techniques au point. Et de plus en plus, donc, des techniques qui soient relativement simples, qui soient fiables, qui soient reproductibles et qui soient aussi harmonisées, certainement, internationalement, nationalement d'abord et internationalement ensuite. On parle par exemple du cadmium ou de plomb. Il y a eu un certain nombre de problèmes d'importation de denrées contaminées par des métaux lourds, par exemple. En fait, on ne sait pas toujours si ces métaux lourds, avec les techniques de dosage actuelles, seront vraiment toxiques pour le consommateur. Il va falloir, en fait, parce qu'elles peuvent être sous forme liée, simplement, dans le type de produit. Et une chose, par exemple, m'a frappée, je sais qu'on peut avoir des produits comme des crabes, par exemple, qui sont très contaminés par de l'arsenic, mais en fait, l'arsenic est sous une forme telle qu'en fait, il n'est pas dangereux pour le consommateur et on peut en toute impunité continuer à consommer du crabe. Et je crois que le même problème se pose en matière de cadmium ou bien de plomb parce qu'ils peuvent être sous des formes toxiques ou ne pas se trouver sous des formes toxiques. Alors, ceci ne veut pas dire, bien entendu, qu'on va tout résoudre du jour au lendemain. Et je crois qu'une simple notion de bon sens, c'est ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Il faut continuer à contrôler et puis améliorer les techniques en même temps.
C'est-à-dire que le principe de précaution est toujours maître.
Il est toujours maître et je crois qu'il doit toujours être maître. Et il faut de toute façon que le consommateur sache que l'on a mis tous les atouts que l'on pouvait de son côté. On n'arrivera jamais au risque zéro, mais par contre on peut essayer de limiter les niveaux de contamination de toutes sortes, par tout type de contaminants, de façon à être le plus sûr possible de son alimentation.
La plupart des pays en développement ont des infrastructures de contrôle insuffisantes et comptent pourtant sur les exportations alimentaires pour se procurer des devises. Pour aider ces pays à renforcer les systèmes de contrôle, des organisations mettent en place des programmes de formation et d'assistance technique. L'exemple de la FAO avec Ezzedine Boutrif.
Nous avons eu un projet il y a quelques années en Tchéquie où le PCB, c'est-à-dire ces composés donc polychlorés, biphéniques, c'est un contaminant de l'environnement, posait des problèmes parce qu'on trouve des traces dans les produits alimentaires qui sont produits localement là-bas. Et puis nous avons eu à éliminer ces traces de PCB dans le sol qui s'est accumulé pendant plusieurs années dans le passé. Nous avons également un projet, par exemple, en Syrie pour la formation des techniciens d'analyse de produits alimentaires, surtout pour ce qui est contaminant, c'est-à-dire les pesticides, les métaux lourds, les mycotoxines et autres.
Ces projets sont nécessaires pour les pays qui souhaitent écouler leurs stocks sur les marchés internationaux, un enjeu que Mohamed Aïdara illustre bien au Mali.
Dans la mesure où, en année de bonne pluviométrie, il y a beaucoup de zones au Mali qui se retrouvent avec des fortes productions et n'arrivent pas à écouler leurs céréales. Pourquoi ils n'arrivent pas à écouler leurs céréales? Parce qu'ils ne sont pas compétitifs par rapport au marché dit institutionnel. Je prends le cas de l'Union européenne qui, depuis un certain nombre d'années, s'oriente de plus en plus par des achats locaux. C'est-à-dire que ce n'est pas de la céréale européenne qui est déversée désormais sur le continent africain, c'est des achats de céréales venant d'Afrique pour des Africains en cas de distribution d'aide alimentaire. Mais malheureusement, depuis plusieurs années, ce sont les opérateurs privés qui ont la quasi-totalité de ces marchés. Les paysans n'avaient pas ce marché. Donc on leur explique, si vous voulez écouler une quantité importante de vos produits, il faudrait que vous puissiez respecter les normes de qualité. Et les normes, c'est quoi? Les taux d'impureté, taux d'humidité, etc. On explique par des données très chiffrées, en faisant des calculs de coûts de revient, en leur démontrant que c'est seul en respectant ces normes que vous pouvez améliorer non seulement la qualité, mais aussi écouler vos productions en vue d'avoir un revenu tout à fait profitable. Je prends le cas en zone office du Niger, qui a une zone de production risicole. Une année, il y a eu des milliers de quantités de tonnes qui sont restées invendues du fait que les qualités n'étaient pas respectées. nous avons pu trouver des opérateurs privés, des institutions, des structures caritatives qui étaient intéressées par l'achat de riz. On est allé, on a fait des sessions de formation, on a expliqué les normes de ce marché. Ben, les gens se sont attelés à respecter le minimum de normes de qualité et ont pu décrocher ce marché. Voilà. Je dirais que l'amélioration de la qualité des céréales passe aussi par la recherche du marché potentiel pour les organisations paysannes. Tant que les gens ne perçoivent pas leur intérêt par rapport à un marché, il est évident qu'ils ne vont jamais améliorer la qualité de leurs produits agricoles.
L'Europe exige des normes particulièrement strictes à l'importation des produits des pays tiers. Elles sont même parfois plus strictes que celles du Codex Alimentarius. Il est arrivé à plusieurs reprises d'ailleurs que l'Union européenne rejette des produits qui ne répondent pas à ces normes. Pour les producteurs africains, l'Europe constitue en plus le marché le plus important en termes de consommateurs. Il faut donc arriver à y pénétrer. Arnaud Jou s'est entretenu avec Alejandro Kekilang, directeur en charge des questions vétérinaires à l'Union européenne.
Le problème, c'est comment garantir que on peut importer librement du pays qui est le plus concurrent dans un certain produit ou dans un certain marché, tout en respectant que cette production, une fois elle est placée sur les marchés à l'intérieur de l'Union européenne, elle répond à des conditions de santé minimales établies dans l'Union européenne. Et c'est clair que les règles que la communauté européenne s'est donnée à soi-même et qui exige à l'entrée des frontières sont des règles qui ne sont pas toujours faciles à respecter par les pays tiers, n'est-ce pas? Et je dirais, pas seulement pour les pays en voie de développement, si vous permettez la réflexion, c'est des règles qui répondent notamment au fait que nous avons un centre des consommateurs. Et donc, un des buts essentiels du traité est désormais lié à la protection de la santé et à l'assurance d'une alimentation, d'une santé garantie. Bon, alors, naturellement, la communauté a aussi des politiques actives. Et la communauté contribue, notamment pour ce qui concerne les pays en voie de développement, à aider à maintenir des normes sanitaires dans ces pays qui permettent l'exportation.
C'est-à-dire, il y a des aides financières pour la mise en place d'outils pour contrôler la qualité des aliments?
Il y a des actions d'assistance technique diverses, allant de projets de coopération qui sont gérés par une organisation générale jusqu'à des actions plus souples et moins financières qui sont destinées à essayer d'aider ces pays, dans la mesure du possible, à pouvoir commercer avec la communauté, avec des produits des garanties. Je vous donne un exemple. On change du côté du monde, je regarde pour vous, mais l'exemple vise l'Amérique du Sud, mais ça pourrait un jour être la même chose ailleurs. La communauté a eu un problème avec la Bolivie, qui exporte des noix qui sont cueillies dans des endroits très humides. Et cette humidité qui reste dans les produits est un environnement très favorable à l'apparition d'aflatoxines. Il est donc clair que ces zones de production dans lesquelles il y a une certaine humidité, au-delà du normal, sont des zones qui ont plus de difficultés que d'autres pour respecter les maximums imposés par la communauté européenne. Les problèmes étant techniques, il est parfois meilleur d'aider un pays tiers, un pays en voie de développement, à trouver la solution de son problème technique, car par après, une fois il est en mesure de respecter les niveaux imposés par la communauté, le reste sera des actions commerciales.
Si les producteurs n'ont pas les outils techniques nécessaires pour mesurer les taux de contamination contenus dans leurs produits, ou les mycotoxines, ou encore les aflatoxines, c'est-à-dire les champignons, ils peuvent en revanche commencer par mettre en place des règles d'hygiène de base pour assurer l'écoulement de leurs marchandises. Cécile Lahellec.
Je crois qu'effectivement, ça se met en place à tous les niveaux, cette échelle de normes. Et il est important, là on a parlé tout à l'heure des conditions d'hygiène, de savoir quelles sont les mêmes en fait, à petite échelle ou à grande échelle. Il va falloir se laver les mains, il va falloir utiliser de l'eau potable. Il ne faudra pas après que les denrées, surtout si elles sont insuffisamment cuites, restent au soleil par exemple. On a tout un ensemble de règles de base et de respect de ces règles de base qu'on peut mettre en œuvre absolument partout. L'industrialisation, ce n'est qu'en fait qu'une multiplication à grande échelle de ce qui se fait à l'échelle de base. C'est un problème d'adaptation, je crois, de grandes lois générales d'hygiène, de chaînes de froid, de destruction de certains produits, de faire attention aussi à la contamination générale de l'environnement pour qu'il ne contamine pas ultérieurement les denrées, qui sont à prendre en compte et qui sont à réfléchir en fonction de chaque situation, je dirais, individuelle, qu'il s'agisse de populations entières ou d'individus pris séparément.
Donc c'est une mise en place d'un certain nombre de réglementations sur le papier, mais surtout sur le terrain.
Il ne s'agit pas seulement de l'écrire sur le papier. Si ensuite les personnes qui reçoivent cette information ne sont pas profondément convaincues de ce qu'il faut faire et des incidents qu'il peut y avoir, ils ne se plieront pas à ces règles. Donc je crois que c'est une prise de conscience qui peut se faire par différents moyens de communication. C'est certainement aussi, comme le disent certains, un problème d'éducation sanitaire de base aussi. Ça commence à la petite enfance, c'est pas seulement à l'âge adulte qu'on va vous apprendre un certain nombre de règles d'hygiène sanitaire de base pour produire des aliments sûrs, justement. Je crois qu'il faut que ça commence déjà tout petit.
Pour Mohamed Aïdara du Mali, le problème à résoudre est l'harmonisation de ces normes au niveau national, régional et international.
Quand on prend un pays comme le Mali, si vous partez dans certaines zones du Mali, vous avez comme l'impression qu'on a atteint le bon niveau de développement, que l'avenir est meilleur et qu'on peut envisager l'avenir avec plus de sérénité, tant les programmes sont bien suivis, tant on sent un effort de s'impliquer dans le respect des normes internationales. Par contre, vous partez dans d'autres zones, vous avez comme l'impression que ce n'est pas demain la veille de tout ça. Donc c'est une situation assez difficile ou assez disparate. D'une zone à l'autre, on se retrouve dans des situations très contradictoires, liées même à la situation aux caractéristiques agroclimatiques du pays. Et dans une zone où les gens cherchent le quotidien, cherchent à plutôt se nourrir, c'est difficile de faire passer les programmes tels que l'amélioration de la qualité. Il faut beaucoup de travail. Il faut aussi qu'on arrive à harmoniser toutes ces politiques-là. Parce que le problème aussi des pays africains, c'est que nous sommes tellement pauvres que nous avons la main tendue pour tous les bailleurs de n'importe quel pays. Et chacun a son système, chacun vient avec ses moyens techniques. Et dans certains cas, il n'y a pas d'harmonisation par rapport à tout ça. Donc si on arrive à harmoniser tout ça, à avoir une synergie d'action, je pense qu'on aura des lendemains meilleurs.
Pour Jean-Michel Poisson du Codex Alimentarius, les normes internationales peuvent aussi servir les marchés locaux.
Il faut bien voir que les normes Codex sont des normes qui s'adressent à la fois aux échanges, mais comme ce sont des normes consensuelles qui ne sont pas obligatoires par essence, elles s'adressent également au gouvernement au niveau national, elles s'adressent aux entreprises également. Ce qui les rend liantes, c'est l'Organisation mondiale du commerce et les accords sanitaires et phytosanitaires et sur les obstacles techniques aux échanges, qui ne s'intéressent qu'aux échanges internationaux. Dès lors, il n'y a aucune raison pour qu'une norme du Codex soit imposée au niveau national à un pays. Le seul cas de figure dans lequel cela pourrait se produire, c'est dès lors qu'un pays impose une norme à l'importation, l'Organisation mondiale du commerce l'obligera à avoir une approche identique pour la production nationale. Donc, s'agissant des pays en développement, des pays d'Afrique exportant, par exemple, sur l'Union européenne, la norme Codex ou la norme européenne qui pourra être exigée à l'importation en Europe n'est pas obligatoire pour la production nationale et la consommation nationale de ces pays. C'est plutôt un problème pour eux en termes d'affichage politique.
Les exigences imposées par les Européens et le marché international contraignent les pays en développement, mais leur permettent de mieux connaître les conditions sanitaires des produits qu'ils mettent sur les marchés. Nous conclurons par une citation de Jacques Diouf, directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. « Partout dans le monde, l'homme a le droit de pouvoir disposer d'une nourriture saine, de bonne qualité et nutritive. » « C'était Fréquence Terre, une émission du service magazine de Radio France Internationale. Réalisation Mathias Colchani, à la technique Joël Pochon, entretien Arnaud Jouve et Véronique Guémard. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous écrire à Radio France Internationale, 104 avenue du Président Kennedy, 75 016 Paris, France.
Voilà, reportage produit en mars 1999. Le problème de la sécurité alimentaire était complexe hier, il l'est encore aujourd'hui. La science a fait des progrès, elle permet de repérer ou contrôler les polluants, polluants qui peuvent être divers. Chaque époque combat les siens, qui s'accumulent au fil des temps. Aujourd'hui, on s'inquiète particulièrement des composants chimiques, pesticides, métaux lourds ou microplastiques. Des études récentes font état de niveaux de contamination élevés en cadmium, en plomb, en aluminium par exemple. Les enfants sont particulièrement touchés. Difficile donc de s'alimenter sans absorber des matières polluantes. Limiter sa consommation semble la seule option possible. Les experts se penchent sur le bio désormais pour savoir s'il peut être une alternative fiable. À suivre donc. Et puis il faut aussi noter la disparité qui existe entre les pays occidentaux et les pays du Sud. En Afrique, en Asie par exemple, où les réglementations sont moins strictes et où l'exposition aux polluants est plus importante pour les populations locales. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur notre site alternantefm.fr. Une chanson pour finir, sur une note amusante en dépit des mauvaises nouvelles. On va retrouver le style inimitable d'Alain Souchon et sa manière caustique de se moquer de nous. « On est foutu, on mange trop », dit cette chanson, extraite d'un de ses premiers albums. Elle a pour titre « Papa Mambo » et elle est signée donc Alain Souchon. À la semaine prochaine.
Ton œil profond d'Hidalgo tango, tes joues creusées haut, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses. Que la révolution rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut gringo pistolero, dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux. Le gros bibin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite sœur. 60 kilos d'échevelés poètes, tout lui vide au milieu des tempêtes. Mais l'estomac y tient pas la rime, l'albatros patouche dans l'ice cream. Nous la jolie, nous la beau, tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous la beau, nous la jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop. Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Roulait des hanches en douceur, chanteur, dans son habit cœur, belle minceur, le poster fatal au-dessus du lit. Mais la petite fille d'alors, elle a grossi, elle a groupi, fait de la bonne cuisine. Le chanteur a débordé de son jean, nous v'là jolie, nous v'là beau, tout en pâté, pâteau par les pâtés, les gâteaux. Nous v'là beau, nous v'là jolie, en kilos et soumis sous les kilos de calories. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo.
On est foutu, on mange trop.
Mais qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros?
On est foutu, on mange trop.
Papa Mambo. On est foutu. On mange trop.